Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sabine Marin.
Soyez les bienvenus sur cette libre antenne du samedi soir, cet espace de liberté qui nous permet d'aborder tous les sujets qui vous préoccupent. Pour prendre la parole, vous connaissez le principe, vous nous appelez au 39 21 et vous vous laissez guider jusqu'à moi. Hassan et Oscar attendent vos appels au standard Europe 1. Vous savez aussi qu'à tout moment vous pouvez participer, réagir par SMS en tapant le 7 39 21 et en commençant par le mot nuit. 39 21 donc par téléphone et par SMS 7 39 21 en commençant bien par le mot nuit. Et j'aimerais commencer l'émission de ce soir par une bonne nouvelle sur laquelle je suis tombée il y a quelques jours. On le sait tous, les bienfaits d'un animal de compagnie sur le bien-être des personnes âgées n'est plus à démontrer. Avoir un chien par exemple offre une présence rassurante, surtout pour les seniors isolés. Ça leur permet aussi de maintenir une activité physique et un lien social pendant les promenades. Une étude a même révélé qu'une personne âgée qui possède un chien réduit de 36% son risque de mortalité cardiovasculaire. Le problème, me direz-vous, c'est qu'on se demande toujours ce que deviendra l'animal en cas de perte d'autonomie ou de décès de son maître, et on sait que ce problème peut s'avérer un frein à l'adoption. Eh bien, des initiatives ont vu le jour pour remédier à ça. Depuis quelques temps, la Société de défense des animaux de Cambrai, par exemple, prête des chiens et des chats aux personnes âgées. Elle propose une sorte de système d'adoption partielle à toute personne qui souhaite et qui peut s'occuper d'un compagnon à quatre pattes jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le faire. Je trouve cette idée vraiment, vraiment formidable. J'espère que beaucoup d'autres villes mettront en place ce système qui fera des heureux des deux côtés, chez les deux pattes et chez les quatre pattes. Dans ce domaine-là ou dans d'autres, si vous avez entendu parler d'initiatives positives comme celle-là, venez nous en parler aussi ce soir. On a besoin de savoir que le monde peut aller mieux. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 1h du matin. Le numéro pour nous joindre, c'est le 3921. À la réalisation ce soir, Andreas Papadian et la libre antenne, ça commence maintenant.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour commencer cette émission, on a Gaëtan qui vient nous donner de ses nouvelles. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Sabine.
Comment allez-vous?
Ben écoutez, ça va. Donc aujourd'hui, j'ai été dans une radio locale. Oui.
Oui. Du côté de Nice, non?
Non, du côté du Canet.
Oui, d'accord, dans le sud, c'est ça.
Oui, d'ailleurs, l'animateur, il vous connaît.
Oui, c'est bien ce que je pensais. J'ai fait le lien avec vous quand j'ai eu le message.
Oui, et du coup, donc, déjà, je vous appelais pour vous remercier pour les conseils que vous m'avez donnés l'année dernière, parce que grâce à vous, j'ai pu trouver un foyer jeune travailleur.
Alors, ce que je vous propose, Gaëtan, c'est de résumer un petit peu pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre histoire, juste en quelques mots. Redites-nous par où vous êtes passé.
Oui, ben en fait, je suis passé par un an et demi chez mes grands-parents. Et chez mes grands-parents, ça a été l'enfer. J'ai vécu l'enfer pendant un an. Ma grand-mère, elle n'a pas été très sympathique. Elle m'a persécuté à chaque fois pour tout ce que je faisais. Mmh. Oui.
Oui, je me souviens, vous nous disiez que vraiment, c'était des comportements vraiment excessifs avec vous, à la limite de la violence.
Oui, c'est ça.
Et vous n'osiez pas prendre vos distances et vous ne saviez pas comment arriver à partir de là.
Oui, c'est ça. Et là, j'ai trouvé un foyer jeune travailleur sur Grasse.
Bon, c'est une bonne chose. Est-ce que vous y êtes bien?
Oui, 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 oui. J'y suis très bien. Oui, ça me plaît beaucoup. J'y suis depuis le mois d'octobre et ça, c'est super.
C'est la liberté, hein?
Oui, vraiment, ça fait du bien d'être libre.
Et alors, comment est-ce que ça s'est passé, la séparation avec eux, le départ?
Eh bien, ils n'ont pas très bien apprécié. Et d'ailleurs, là, ils continuent à pas bien apprécier. Et j'ai un gros problème, c'est que ma grand-mère continue à me persécuter. Elle a appelé le foyer jeune travailleur l'autre jour en disant qu'elle souhaitait me reprendre et pour me remettre dans le droit chemin, alors que moi, je ne souhaite pas et je ne comprends pas qu'elle continue à me persécuter comme ça.
Dans ce foyer, est-ce que vous êtes suivi par quelqu'un? Est-ce qu'il y a une thérapeute, une assistante sociale, quelqu'un qui est votre interlocutrice?
Oui, on a une accompagnatrice sociale, oui.
D'accord.
Et c'est justement elle qu'elle a appelée.
Alors justement, qu'est-ce qu'elle dit, elle, de ça?
Oui, que comme j'ai 20 ans, c'est pas à elle de décider, c'est à moi. Et que de toute façon, sur aucun papier, il y avait écrit que c'est elle qui avait eu la garde à un moment.
D'accord, donc vous êtes protégée de ce côté-là?
Oui, de ce côté-là, je suis protégée. Mais elle continue sans cesse à me harceler au téléphone en me disant que je suis fada, qu'il faudrait que je revienne. Là, je suis bénévole dans une radio associative à Grasse. Et bien, il a fallu qu'elle appelle le patron en disant qu'elle s'inquiétait, que je rentre tard le soir chez moi. Mais après, récemment, j'ai fait un voyage à Paris aussi. Là, elle s'est inquiétée. Et puis après, elle m'a appelé toutes les 5 minutes pour savoir comment j'allais.
Mais est-ce qu'il y a des raisons pour qu'elle s'inquiète? Est-ce que vous avez eu des comportements déviants par moment?
Non.
Ou des problèmes particuliers? Non.
Non, je n'ai jamais eu aucun problème et elle s'inquiète. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. S'il faut pour que je prenne plus de distance ou...
Comment ça se passe? Vous la prenez au téléphone quand elle vous appelle, j'imagine, mais qu'est-ce que vous lui répondez? Quel discours vous avez-vous avec elle?
Je lui dis que ce n'est pas la peine qu'elle m'appelle plusieurs fois et que tout va bien, mais elle continue à m'appeler Et des fois, quand j'en ai marre, je ne lui réponds pas.
Oui, parce que j'ai l'impression que ces appels, même si on peut imaginer que ça part d'un bon sentiment, vous, ça vous fait du mal.
Oui, c'est ça. Oui. Et également, récemment, j'ai vu ma mère. Comme des fois, j'ai tendance à être un peu stressée, elle m'a donné du méga stress. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
Et c'est un médicament un peu comme de l'ophytose qui aide à gérer le stress, et ma grand-mère a vu ça quand elle est venue chez moi, et maintenant elle s'imagine que ma mère veut m'empoisonner, alors que ce n'est pas vrai, c'est pour mon bien.
Et votre mère ne peut pas intercéder un petit peu en votre faveur, aller lui parler à cette grand-mère?
Non, parce que c'est ma grand-mère paternelle et ils sont fâchés depuis 2007.
Oui, effectivement.
Oui.
Alors moi, voilà, je pense à une solution un peu radicale, mais vous pourriez changer de numéro de téléphone.
Oui.
Et appelez votre grand-mère au numéro masqué quand vous avez envie de l'appeler. Si vous avez envie
d'accord.
de l'appeler, d'ailleurs.
Oui, alors justement, là aussi c'est un problème parce qu'elle est elle-même en numéro masqué et elle ne répond pas au numéro masqué qui l'appelle.
Ah bah à ce moment-là, tant pis pour elle.
Oui.
En même temps, si le seul moyen de vous protéger de ça, c'est qu'elle arrête de vous appeler. Donc le seul moyen, c'est soit vous la bloquez, vous savez qu'on peut bloquer un correct. Ah non, en numéro masqué, elle ne peut pas, vous ne pouvez pas, effectivement.
Oui.
Donc, c'est de changer de numéro de téléphone.
Oui, à mon avis, c'est le mieux.
Parce que vous n'avez pas besoin de ça, vous avez besoin qu'on vous soutienne, qu'on vous encourage.
Oui, pas du tout, elle ne m'encourage pas. Elle me dit que je vais dans le mauvais sens pour toutes les situations, même pour mon bac. Elle ne comprend pas que je fasse du commerce. Et elle ne comprend pas du tout ça et elle me dit que je vais dans le mauvais sens.
Qu'est-ce qu'elle en pense, votre interlocutrice dans ce foyer?
Oui, elle pense que c'est à moi de décider, que personne n'a à m'influencer.
Oui. De toute façon, est-ce que quelqu'un légalement est responsable de vous?
Oui, c'est mon père.
C'est votre père?
Oui, c'est mon père. Mais lui, il est fâché depuis 2 ans avec sa mère.
Et oui, donc voilà. elle est en train d'essayer de prendre, d'après ce que vous me racontez, de prendre une place qui n'est pas la sienne du tout, quoi.
Oui, c'est ça. Elle essaie en fait un peu de prendre la place comme si elle était ma mère, en quelque sorte.
Mais, ou soit votre mère, soit votre responsable, votre tutrice, or ça n'est
pas
le cas.
C'est ça, et je ne sais pas comment lui faire comprendre.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si elle ne comprend pas, je vois que ça, hein.
Après, elle s'énerve aussi quand elle apprend que je vais voir de ma famille du côté de ma mère. Ça l'énerve beaucoup.
Gaëtan, vous avez 20 ans, vous n'êtes pas un petit garçon de 5 ans? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez? À partir du moment où vous me dites, et je vous crois, que vous n'avez pas de comportement ni déviant ni agressif, que vous ne provoquez pas des situations bizarres ou que tout va bien, il n'y a aucune raison qu'on soit sur votre dos et qu'on vous empêche de voir qui que ce soit ou de faire ce que vous voulez de votre vie.
Oui, c'est... C'est vrai qu'elle n'a pas m'empêché. Personne n'a m'empêché.
Déjà,
oui.
Quand je vous entends là, je vous trouve mieux qu'à l'époque où vous étiez complètement sous leur dépendance.
Oui, c'est vrai que là, je suis bien. C'est un gros poids qui est passé, là.
Oui, ça s'entend et j'en suis ravie, mais je pense qu'il faut continuer sur ce chemin-là et vous affirmer, c'est-à-dire prendre votre place en disant non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
Oui.
Moi, j'ai besoin de choses qui me font du bien, de gens qui me font du bien. Et là, si à chaque fois, ça vous détruit, ce n'est pas le but, quoi.
Oui, c'est...
Je pense que cette dame a peut-être des choses à régler avec son propre fils et avec sa belle-fille, en l'occurrence vos parents.
Oui.
Mais ce n'est pas à vous de faire les frais de ça.
Oui, c'est un peu... Parce que moi, je les aime bien, mais après que ça parte comme ça, je sais pas, ça m'énerve un petit peu.
Gaëtan, on fait une courte pause.
Oui.
Et je vous récupère dans une poignée de secondes. Ne bougez pas.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Gaëtan, vous êtes là ?
Oui, je suis toujours là.
Voyons les choses positives. Vous avez réussi à sortir de cette dépendance-là et à trouver un foyer.
Oui.
Vous êtes bien entouré, vous êtes bénévole. Oui. C'est qui CFM la radio, je crois, c'est ça,
hein ? Des fois, je vais les voir, mais sinon, je suis bénévole à Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur, d'accord.
Oui.
Et qu'est-ce que vous y faites dans cette radio, concrètement ?
Je m'occupe de la réalisation technique pour deux émissions, le dimanche soir de 18h à 20h et un dimanche matin sur trois de 9h à 11h.
D'accord. Et si je me souviens bien, c'était votre passion, la radio. Vous aimiez beaucoup ça.
Oui. Oui, c'est ça.
Donc
oui.
Ça, c'est super positif aussi.
Oui.
Vous avez votre indépendance. Vous avez, bon, pour l'instant, est-ce que vous allez chercher un travail quand même à terme ?
Oui, ben, j'ai déjà un travail. Je suis en apprentissage.
Ah, d'accord. Dans quel domaine ?
Oui. Dans le domaine du commerce.
Ok, donc ça aussi c'est sur les rails, oui. Donc il y a quand même beaucoup de choses positives.
Oui, il y a énormément de choses positives que, oui.
Du haut de vos 20 ans et avec ce parcours pas facile, vous en êtes bien sorti, vous avez redressé la tête et les épaules, vous avez pris votre place, il n'y a aucune raison que vous vous laissiez embêter par quelqu'un, même si c'est votre grand-mère, qui ne vous fait pas de bien, quoi.
Oui, ça c'est vrai qu'elle ne me fait pas de bien. Après, moi souvent je vois mon grand-père que lui et sans ma grand-mère et lui, des fois il souffre aussi de la situation avec ma grand-mère.
Ben, j'imagine que je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas réglé plein de problèmes, quoi.
Oui,
elle ne peut pas vous les mettre, oui, sur les épaules, ce n'est pas votre rôle. Hein.
Oui, c'est ça qui est problématique et je crois qu'il va falloir que... Je prenne des dispositions.
Oui, je pense que la seule chose, c'est de, pour reprendre les rênes face à quelqu'un comme ça, c'est de lui dire c'est moi qui choisis quand je t'appelle et quand je te vois.
Oui.
Et donc tu n'as pas mon téléphone. Et si tu veux qu'on se voit, tu débloques ton téléphone en mode, tu le mets pas en mode numéro caché, sinon je t'appelle pas.
Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire là.
C'est une manière de reprendre les rênes et de lui montrer aussi que vous êtes un adulte maintenant.
Ben oui, parce que sinon elle ne comprendra jamais.
Et puis une fois de plus, je répéterai jamais assez, ne nous entourons pas de gens qui nous font du mal. La vie est assez dure comme ça. On a besoin de s'entourer de gens qui nous font du bien, dans tous les domaines.
Oui, moi c'est ce qu'il faut là. J'ai pu trouver un endroit où je me sens bien et j'ai pas envie que ce soit gâché par ma
Exactement.
Grand-mère.
Et souvent, on se bloque soi-même en disant « oui, mais c'est ma famille ». Et alors, c'est pas parce que quelqu'un de sa famille qu'on est obligé de le subir s'il nous fait du mal.
Oui, c'est ce que je me dis des fois, que c'est ma famille. Et moi, ça me fait un peu de peine des fois que d'en arriver à là, mais...
Je comprends, mais en même temps, ces problèmes à elle, c'est pas à vous de les régler. Et là, c'est une histoire qui est une génération au-dessus. Je crois que les conflits sont entre son fils, c'est-à-dire votre père et elle.
Oui.
Et elle peut pas vous faire porter ça, c'est pas... Ça n'est pas normal et ça n'est pas possible pour vous.
Oui, j'ai besoin de me concentrer, sachant qu'en juin, je vais passer mon bac.
Mais oui.
Oui.
Vous avez besoin de construire une vie agréable, le plus agréable possible pour vous. Et la priorité, c'est vous, c'est pas elle maintenant.
Oui, c'est ça que...
Même si c'est bien sûr, c'est malheureux, c'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez y faire ? On peut pas changer certaines choses.
Oui, c'est bien ça le
Donc,
problème.
Donc, vous ne pouvez ni la changer, ni changer la situation, vous ne pouvez que vous changer de comportement.
Oui, c'est c'est ce que je vais faire parce que j'ai pour pouvoir penser un peu à moi.
Ça me paraît extrêmement important. Quels sont les projets alors pour l'année 2020?
Pour l'année 2020, c'est de passer le bac et puis après de faire un BTS dans l'audiovisuel.
Ouais, avec quel objectif au bout?
Après, être technicien dans le domaine de la radio.
Et donc c'est vraiment ça votre univers, l'univers qui vous plaît?
Oui.
Bon, ben, un jour vous serez peut-être technicien pour la Libre Antenne, vous réaliserez la Libre Antenne?
Oui, ce serait bien.
Je vois Andréas qui sourit de l'autre côté.
Déjà, je suis passé voir l'équipe de musique récemment.
Ah bon?
Oui.
Quand ça?
C'était le 28 octobre.
Bah, je vous ai pas vu?
Non, c'était un lundi.
Ah bah oui, je suis bête, parce qu'il n'y a que le vendredi que je la croise, bien sûr.
Oui, et j'ai rencontré Olivier Delacroix.
Ah oui, en semaine, oui, bien sûr. D'accord.
Oui.
Et alors, comment avez-vous été accueilli?
Très bien,
par Émilie et par Olivier.
Oui, j'ai très bien été accueilli, oui.
Bon,
c'était très sympa, oui.
Vous avez vu d'un beau studio tout bleu?
Oui, oui, il est magnifique.
Ouais, ils sont beaux. Hein.
Oui.
Bah, je vous souhaite vraiment... D'abord, je suis très contente d'avoir de vos nouvelles ce soir et puis d'entendre que vous allez bien.
Oui.
De voir que vous grandissez, que vous commencez à faire vos premiers pas dans cette vie d'homme et que vous avez des beaux projets. Quand on a une passion, c'est ce qui fait avancer dans la vie. Un but.
Oui, c'est ça. Et moi, j'ai le but qui est devant moi.
Et je sais que vous y arriverez.
Oui, je ne me fais pas de soucis.
Mais vous ne laissez pas marcher dessus. Hein.
Oui.
Tout ce qui est toxique, on prend de la distance.
Oui, c'est ce que je vais faire pour aller mieux.
La vie est trop courte pour se laisser détruire par les autres.
Oui, je sais, c'est passé vite quand même, toute ma jeunesse.
Ah, puis alors, je vous rassure, ça ne va pas en s'arrangeant après, ça va de plus en plus
vite. Ah oui.
La vie défile à une vitesse absolument hallucinante, donc profitons de chaque moment et éloignons-nous des gens qui nous font du mal.
Oui, c'est ce que je vais faire là, oui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos conseils.
Mais j'en suis ravie, vous savez que la porte est toujours ouverte, Gaëtan.
Oui. Hein? Je continuerai à vous donner de mes nouvelles.
Avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort.
Moi aussi. Très bientôt.
Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Oups, ça s'appelle pas nous deux, ça s'appelle les jambes, me dit Andréas, pardon. On a eu beaucoup de SMS pour Gaëtan, je vous en livre quelques-uns. La plupart d'ailleurs lui disent « changez votre numéro de téléphone ». Et puis j'aime beaucoup le message de Jeanne qui dit « Gaëtan est touchant, il semble avoir la tête sur les épaules et ne doit pas se laisser embrigader par cette satanée grand-mère. Continuez comme ça Gaëtan, osez l'ignorer ». Jeanne, on vous embrasse. Et c'est Monique que j'accueille maintenant avec grand plaisir. Bonsoir Monique.
Oui, bonsoir madame.
Oh, vous pouvez m'appeler Sabine.
Bonsoir Sabine.
Soyez la bienvenue Monique.
Oui, merci. Donc moi, je vous appelle pour un sujet pas vraiment grave, mais il y a toujours, on nous parle de MeToo, de dénonce ton porc.
Mm-hmm.
Hein? Un homme ne peut plus nous sourire ou nous aborder gentiment sans qu'il ait peur d'être mal accueilli ou accusé de mauvaises intentions.
Oui.
Voilà, je pense que vous êtes d'accord avec moi.
Hein? Je pense que comme partout, c'est une question de juste équilibre.
Voilà.
Il faut basculer ni d'un côté ni de l'autre, il faut juste essayer de vivre en bonne intelligence.
Mais moi, je le dis pour les défendre.
Mmh. Pourquoi vous êtes retrouvée dans des situations comme ça?
Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, bon, alors, on nous dit ça, et d'un autre côté, on nous fait, je fais un parallèle, d'un autre côté, on nous fait... une publicité à la télé pour des serviettes périodiques Osons Tout.
Que je oui, pense c'est vrai que ça a créé beaucoup de polémiques, cette histoire.
Que vous avez dû voir. Alors ça, personne n'en parle. Alors on voit quand même le bas du corps d'une femme avec des vergetures, avec un coquillage qui frémit devant. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Un abricot devant. Il y a toutes ces petites bourses là dont on a tiré les doublures pour faire représenter des sexes de femmes.
Mmh.
des origamis. Vous l'avez vu, ça?
Oui, je l'ai vu. Effectivement, hein, je la trouve inutile. Enfin, je ne vois pas l'intérêt.
Une boule de
ça,
massage qui est, sur laquelle on a fait ressortir l'étiquette pour vraiment montrer que c'est un clitoris. On voit du sang dans la serviette. Maintenant, on voit une personne qui regarde dans sa culotte, qui regarde son sexe avec une glace, avec un miroir, pardon. Maintenant, on voit une autre personne qui est assez forte, qui regarde sa culotte, elle tombe, on voit la serviette périodique, avec du sang, parce que c'est rouge maintenant. Et eh bien moi, voyez-vous, ça me révolte, parce que je me dis qu'on réduit les femmes à pas grand-chose. Oh, je n'ai pas entendu une chienne de garde, puisque avant on appelait ça comme ça, s'insurger contre ça.
Oh si, ça a fait du bruit cette pub, il y a eu beaucoup.
Eh ben,
beaucoup
moi j'en ai pas entendu parler.
Ah ben si, ben, c'est ce qui m'a fait la regarder, parce que j'ai tellement entendu de commentaires là-dessus. En même temps, vous trouvez normal que pendant des années, dans les pubs comme ça, le sang était bleu? D'où ça sort aussi?
Non, bien sûr, ce n'est pas normal, du sang c'est rouge.
C'est ça, tellement...
Je suis bien d'accord avec vous.
Les publicitaires sont capables de tout et ce ne sont pas des exemples à suivre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on en parle? Je ne sais pas. Je trouve que c'est juste sans intérêt, quoi.
C'est sans intérêt, d'accord. Mais est-ce que ce sont des hommes qui les font, ces publicités-là?
Oh, la plupart du temps, j'aurais tendance à dire oui. Hein.
Voilà.
C'est un milieu très, très mature, le milieu de la pub, ça, c'est sûr.
Voilà. Donc, eh ben, moi, j'estime que des pubs comme ça ne devraient pas passer à la télé. Elles devraient être tout simplement supprimées.
Oui, alors après, c'est le débat de la liberté, mais moi, je pense juste qu'il ne faudrait pas en parler, parce qu'en plus, plus on en parle, plus on leur fait de la pub. Donc, c'est pas,
oui,
c'est
mais
pas
moi,
très intéressant.
J'en parle avec des amis et nous sommes outrés.
Mais je comprends tout à fait, mais je comprends que ça puisse choquer. Je trouve que c'est justement, ça, c'est juste inutile. Je ne vois pas ce que ça apporte, quoi, c'est ça.
Bah, ça n'apporte rien.
Comme dans l'autre sens, de mettre du sang bleu, ça, c'est complètement. Enfin, voilà, tout ça est un.
Oui, mais ça n'apporte rien.
Ça manque d'intelligence, à mon avis.
Voilà, c'est bien ce que je voulais dire. Mmh. Alors d'un côté, on attaque les hommes, et puis d'un autre côté, on avilue les femmes avec ça.
Et alors, où est la solution?
La solution, est de supprimer, ces mauvaises publicités, et puis d'arrêter de toujours attaquer les hommes, parce que ils sont pas tous pareils non plus.
Bien sûr qu'ils ne sont pas tous pareils. Moi, je pense que la solution, elle est plutôt dans l'éducation du respect de chacun.
Oui,
si on commençait dès l'âge de 2-3 ans à expliquer aux petits garçons et aux petites filles
tout
que chacun se respecte,
je suis bien d'accord.
Ça éviterait plus tard des adultes qui créent des pubs comme ça.
Voilà. Les hommes n'ont pas harcelé les femmes. Les femmes non plus n'ont pas harcelé les hommes.
Mais ce n'est même pas une question de sexe, c'est une question de respect de l'être humain, point.
Et le respect, tout simplement, oui, parfaitement. Oui. Donc, c'était ce que je voulais vous dire. Voilà.
Bien, vous l'avez dit, Monique.
Oui, merci. Peut-être que vous aurez des réactions. Je vais continuer à vous écouter.
Je vous dirai, je transmettrai s'il y a des messages qui arrivent. Une
merci.
Fois de plus, je pense que c'est juste une question d'humanité, de respect. C'est même pas une question de sexe.
Non, ce n'est pas une question de sexe. Je suis d'accord avec vous. C'est une question de respect. Nous ne sommes pas respectés quand on voit des choses comme ça.
Oui.
Tout simplement, c'est ce que je voulais dire, parce que ça m'a outré profondément.
Mais vous avez bien fait d'appeler pour le dire, Monique. Le message est passé, puis je vous enverrai tout à l'heure s'il y a débat, s'il y a des gens qui ont des réactions dans un sens ou dans un autre. Je transmettrai tout ça, d'accord?
Eh bien, je vais continuer de vous écouter et je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Merci, vous aussi. Et un petit clin d'œil à Jeanne, merci pour votre adorable SMS. Bonsoir Françoise.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Alors,
merci de me recevoir.
De quoi est-ce que vous avez envie qu'on parle ce soir?
Eh bien, je ne sais pas, j'ai cru comprendre que vous parlez des petits animaux de compagnie.
Tout à l'heure, j'ai annoncé une bonne nouvelle. Je trouvais effectivement que l'expérience est intéressante pour toutes les personnes âgées qui ont peur de prendre un animal parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir s'en occuper jusqu'au bout. De faire une sorte de location, si on peut appeler ça comme ça, je trouve que l'idée est vraiment chouette. D'autant qu'il y a beaucoup dans les refuges d'animaux qui sont âgés, qui ne trouvent personne pour les adopter.
C'est vrai.
Et j'ai trouvé que c'était une belle initiative et c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure.
Donc, écoutez, moi je sors d'une période très très dure. Bon, j'en suis pas sortie d'ailleurs. J'essaye de m'en sortir.
Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma famille, j'ai tout perdu. Et en fait, une petite cousine s'est lancée dans un élevage de petits chiens. Mmh. Alors, je me suis dit, et pourquoi pas?
Quelle marque de
chien? Donc, du coup, j'ai été le chercher. C'est un Spitz.
C'est tout petit avec les petits poils longs sur le museau. Oui, c'est ça.
Tout à fait, avec un tout petit museau très noir. Mmh. Et là, il est, je ne sais pas pourquoi il est énervé, mais il est adorable. Alors vraiment, c'est la crème de la crème. Et quand je ne suis pas bien, il se met au pied de mon lit et il ne bouge pas. Il attend que j'aille mieux. Et puis, il me force à sortir. Donc,
c'est important pour maintenir un lien, une activité et tout.
Ah oui. Parce que là, je n'avais plus rien.
Oui.
Je n'avais plus rien. Donc, non, c'est la crème de la crème. Et il est adorable, il n'est absolument pas agressif. Il est, franchement, je pense que le Spitz, pour des personnes de certain âge, c'est pour des personnes âgées, c'est très bien.
C'est une race que je ne connais pas tellement. Moi, je suis plutôt grand chien, donc je vous avoue que les petits, je ne sais pas très bien comment ils fonctionnent. Il n'est pas nerveux du tout.
Du tout.
Non.
Du tout. Et c'est vrai que moi, j'ai hésité longtemps. Mais comme j'ai une petite maison, une petite vie, je dis, j'ai pris un petit chien. Mais vraiment, il est adorable.
Un petit chien, mais avec un grand amour.
Ah oui. Ah oui. Oui, oui. Non, vraiment, il est adorable. Donc, il a son caractère. Parce qu'à la base, ce sont des chiens de garde. Donc,
ah bon
ah oui. Oui.
Mais
je ne savais pas.
Ça pèse combien, ça, tout mouillé?
Je ne sais pas. 2 kilos et quelques.
Parce que je voudrais pas avoir l'air de me moquer, mais qu'est-ce qu'ils peuvent garder, là, du haut de leurs 20 cm?
Disons qu'ils gardent quand même. Puis, il peut être pas agressif. Il n'est pas agressif. Mais il surveille, il prévient.
Et ça fait comment il s'appelle, ce toutou?
Popeye.
Et ça fait combien de temps que Popeye est dans votre vie maintenant?
Depuis le mois de juin.
Oui, donc ça fait quelques mois. C'est une relation, oui. Une relation toute jeune.
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est la première fois que vous avez un toutou à vous?
Oui.
Ouais, donc
j'ai toujours voulu avoir un chien, mais je ne me suis jamais lancée parce que je sais que c'est une responsabilité. On ne prend pas un chien comme ça. Hein. Mais là, j'ai été le chercher. Ouais. Mais il est là. C'est... un amour.
Et il est arrivé au bon moment, j'ai l'impression.
Oui, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et on a passé les vacances. On est passé les vacances à famille. Et puis là, maintenant, on n'est que tous les deux, mais bon. Et même, je pense que mon fils, il vient juste pour lui dire bonjour.
Ça, c'est le côté positif, Françoise, mais ce que j'ai entendu avant m'inquiète un peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que tout s'écroule comme ça? Et qu'est-ce qui va se passer pour que vous remontiez la pente, surtout?
Je ne sais pas trop. Pour remonter la pente, je ne sais pas.
Alors racontez-moi d'abord ce qui s'est passé pour que tout s'écroule comme ça.
J'ai perdu mon travail.
Mais pourquoi? Dans quel contexte? Un licenciement économique?
Mais j'ai fini par partir, en fait. Parce que, en fait, moi, j'étais une personne qui était très, très impliquée.
Oui.
Et apparemment, ma hiérarchie, ça n'a pas été ça. Donc, moi, j'ai dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et donc, j'ai quitté mon travail. Mmh. Et je suis tombée en dépression. Et le père de mon fils n'a pas compris. Et le père de mon fils, du coup, a demandé le divorce. Et je dis, tu peux pas me laisser comme ça. Et il m'a laissé. Voilà.
C'était il y a combien de temps, ça?
En 2014.
Ouais.
Et par contre, comme j'étais pas bien, j'ai laissé mon fils à son père. Parce que son père, il a gardé la maison, il a tout gardé, hein. Donc, voilà.
Il avait quel âge, votre fils?
Que mon fi- Il avait 14 ans.
D'accord.
Et donc, pour moi, il était préférable. En plus, son père refusait sa vie. Pour moi, il était préférable que son fils refasse sa vie. Enfin, que mon fils
oui,
j'ai
compris,
avec son père.
Avec son père voilà. Ouais. Voilà. Vous n'étiez pas en état, de toute façon, à ce moment-là, de le
non,
prendre en charge.
Non, je n'étais pas en état. Non.
Ouais, je comprends. Non. Et vous êtes retrouvée où, alors, à ce moment-là?
Dans un logement social.
Oui.
On a cette chance-là. Et là, franchement, j'ai un petit logement social qui n'est pas loin. Donc, du coup, mon fils, quand il veut venir, il peut venir.
Donc ça, c'est plutôt positif. Est-ce que la dépression, vous arrivez à en sortir, là?
J'ai du mal.
Oui, j'entends ça. Mm. Qu'est-ce que vous faites pour en sortir? Vous avez un traitement déjà à la base?
J'en veux plus.
Pourquoi?
Parce que je veux plus de médicaments.
Pour quelle raison?
Ben parce que je pense que c'est à moi de faire l'effort. C'est pas aux médicaments de le faire.
Alors, oui et non, vous savez, moi je suis pas du tout pro-médicaments, loin de là. Mais à un moment donné, quand la dépression est un manque de sérotonine. Et la sérotonine, quand on est trop en dépression, on n'arrive pas à remonter le taux tout seul. C'est pas une question de volonté. Et c'est un petit peu comme quand on a une jambe cassée, à un moment donné, il faut passer par un plâtre et ensuite une rééducation. Même si on a beaucoup de volonté et qu'on est très fort. Donc, quand on n'y arrive pas, à un moment donné, je pense que quand même se faire aider par des antidépresseurs, c'est important. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous faites d'autre à la place? Est-ce que vous avez un suivi thérapeutique?
Non. J'en veux plus, en fait. J'en ai assez. J'en ai assez des médecins, des salles d'attente. J'en ai assez.
Mais un psy ou un autre thérapeute, c'est pas médecin salle d'attente, c'est quelqu'un qui est là pour vous.
C'est la salle d'attente, tout le temps. Avec des... Enfin, je sais pas. On prend rendez-vous et on en a pour des mois. Enfin, des semaines, des jours. Et ça, c'est, ça passe plus.
Mais en même temps, François, si vous ne faites rien, comment voulez-vous que ça change?
Oui, je sais.
C'est ça qui m'inquiète dans votre... Je comprends qu'on puisse à un moment donné dire « Stop, j'en ai marre de tout ça », mais en même temps, il faut bien tirer sur le bout d'une ficelle pour trouver une issue, pour que ça aille mieux, quoi. Sinon, ça va être compliqué si vous n'arrivez pas à trouver... Sur quelle corde tirer pour défaire tous ces nœuds émotionnels là qui sont coincés? Est-ce que vous avez retrouvé du travail depuis l'époque?
Non. Non, je suis en invalidité là.
À cause de la dépression?
Oui.
D'accord.
Et pour l'instant, j'ai pas la niaque. Je sais pas.
Non, vous êtes un peu au point mort, un peu en...
Oui, totalement.
Entre parenthèses là.
Oui.
Alors, on va essayer de démêler un peu tout ça et de trouver des issues positives. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une courte pause du temps des infos.
Ça marche.
Vous respirez, vous prenez un bon verre d'eau fraîche et je vous récupère de l'autre côté des infos.
Merci.
D'accord? À tout de suite.
Merci. Ouais, à tout de suite.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Sur la libre antenne d'Europe 1, nous sommes encore ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous en avez envie, si vous avez envie de prendre la parole ce soir, c'est facile. Vous faites simplement le 3921, vous tomberez sur Hassan ou sur Oscar qui vous accueilleront au standard et qui vous guideront jusqu'à moi. Je vous rappelle que tout au long de l'émission, vous pouvez aussi intervenir par SMS en faisant le 73921 et en commençant par le mot « nuit » tout simplement.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Françoise, vous êtes là?
je suis là.
Bon. C'est le problème d'une dépression, c'est que c'est vraiment un cercle vicieux. C'est-à-dire, moins j'en fais, plus je me dévalorise. Plus ça me déprime d'être capable de rien faire. Et plus ça me déprime, moins j'ai envie, etc., etc., etc.
Ouais.
C'est comme ça hein, qu'on fonctionne.
J'en ai confiance.
Ouais.
Et le, j'en ai confiance.
Le problème, c'est que, c'est ce que je vous disais, il faut trouver, il y a forcément un bout de ficelle quelque part sur lequel tirer pour commencer à dénouer la pelote. Donc, si vous ne voulez pas les médicaments, peut-être pouvez-vous vous tourner vers des choses plus naturelles que les médicaments. Il y a tout ce qui est en phytothérapie, le millepertuis, des choses comme ça. Qui sont des antidépresseurs.
Pour l'instant, le petit bout de ficelle, je ne l'ai pas trouvé.
C'est pour ça que j'essaie de vous proposer des pistes. Est-ce que vous avez pensé à tout ce qui est produit naturel pour sortir de la dépression ? Les plantes ?
Mon problème, c'est que je suis loin. Je suis loin de ma famille. Et j'ai beaucoup de médecins dans ma famille et beaucoup de... Et ils sont loin. Et moi, il faut que j'aille là-bas. Mais... Et ça,
Je ne comprends pas votre réponse. Je vous demande si vous avez pensé à prendre des plantes, des choses en phytothérapie qu'on trouve dans n'importe quelle pharmacie. Il n'y a pas besoin de famille pour ça.
C'est vrai. Non, ça, je n'y ai pas pensé.
Le millepertuis est un très bon antidépresseur naturel et il y en a d'autres. Il y a beaucoup de choses. On y revient de plus en plus. Les huiles essentielles, les plantes sont extrêmement efficaces, beaucoup plus qu'on ne le croit et beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Donc, déjà, ça, vous faire conseiller par une pharmacienne un peu sympa. En huile essentielle, en plantes, en gélules de plantes qui peuvent vous apaiser, vous amener du bien-être, c'est déjà important. C'est des petites choses, mais vous savez, le mieux-être est fait de petites choses. Le problème quand on va mal, c'est qu'on voit le bout du chemin et ça paraît tellement loin qu'on se dit « c'est même pas la peine que je me mette en marche ».
C'est vrai.
Sauf que ce qu'on oublie, c'est que dans tout domaine, on avance un pas après l'autre. Et donc avec beaucoup de bienveillance, vous pouvez commencer aussi, un pas après l'autre, à faire des petites choses qui vont vous faire du bien, mise bout à bout. Méditez, tout simplement. Il y a plein de méditations. Pourquoi vous riez ?
Non, parce que j'ai appris que mon garçon sortait avec une fille qui est très bien. Et c'est la fille de la pharmacienne. On est dans une petite ville. Je dis, bon, d'accord.
Et ça vous pose problème ?
Donc, elle est... oui.
Et ben,
parce que je suppose qu'elle est au correspondant... Enfin, elle sait tout. Donc,
Vous pouvez exceptionnellement aller dans une autre pharmacie, prendre un bus et aller dans une autre pharmacie.
C'est vrai, je vais à côté. Bon, du coup, ville à côté. Mais bon.
Je vous parlais ensuite de méditation, parce que quand on est en dépression, le cerveau est pollué. Il est rempli de parasites.
Totalement.
Il est rempli de choses épouvantables et de fumée noire, je dirais. Et des bons moyens d'arriver à se sortir de ça, c'est aussi la méditation. Alors, quand on ne sait pas méditer et on n'a pas appris, et c'est normal, il y a plein de méditations guidées sur Internet. C'est gratuit. Vous cherchez celle qui vous convient. Il y a Christophe André, bien sûr. Il y a Maud Pajot, dont je parle régulièrement aussi, qui a une très belle voix, qui est très douce. Et ça vous accompagne dans des moments où juste c'est comme une manière, sans rien chercher, sans rien attendre, de soulever le couvercle de la cocotte. Juste de prendre 5, 10, 20 minutes pour vous, d'écouter ces voix-là, et puis laisser, c'est une sorte de nettoyage mental, si vous voulez. Vous connectez aussi avec la forêt, marcher à l'extérieur. On oublie à quel point notre cerveau, et c'est vraiment médicalement prouvé, notre cerveau a besoin d'oxygène. Et là aussi, quand on va mal, quand on est en dépression, qu'est-ce qu'on fait ? On se met en boule et on ne respire plus.
C'est vrai.
Et donc, c'est l'opposé qu'il faut faire. C'est se débouler, comme je dis souvent. J'aime bien inventer des verbes. Se débouler soi-même, c'est-à-dire écarter ses épaules, aller marcher en forêt, toucher un arbre, vous connecter à ça régulièrement. C'est un petit truc, mais une fois de plus, une petite chose et une autre petite chose et encore une autre, petit à petit, eh bien, on remonte la pente doucement à son rythme. Et chaque petite chose, c'est des petites choses, des petits objectifs plaisir de chaque journée. Vous préparez une tisane ou un thé qui sent bon, un parfum qui vous plaît.
Ouais.
Vous mettre une crème hydratante qui sent bon, des tout petits gestes. Parce que quand on va mal, on n'est pas capable de faire des grandes choses. Mais c'est pas grave, on fait des petites choses. Mais ces petites choses, mis bout à bout, elles nous font du bien.
Et là, moi, j'avance pas à pas, là, pour l'instant.
Mais c'est déjà ça. Vraiment. C'est déjà ça. Le tout, c'est de ne plus stagner. Même si c'est un tout petit pas, c'est d'avancer. Parce que d'abord, on arrête le cercle vicieux. Et on redémarre petit à petit sur un cercle vertueux. Et une petite chose agréable, on amène une autre, etc., etc. Et on en sort, je vous garantis qu'on en sort un jour.
Oui.
Qu'est-ce que vous pourriez, ah si, si, ça je vous le garantis. Qu'est-ce que vous pourriez commencer par faire demain pour vous faire du bien ?
De la marche.
En plus, j'en connais un, qui ça plaira. Hein.
Oui, Popeye, oui, ça et c'est oui. Clair. Ouais, ouais.
Sinon, il y a aussi des choses sympas qui sont des activités avec les chiens, vous savez.
Bah, je sais, je voudrais aller au Club Canin.
Le Club Canin, c'est...
Pour l'instant,
Oui ?
Le Club Canin, on a un Club Canin à côté. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'aimerais qu'il y aille.
Faire de l'agility, par exemple.
Par exemple, oui.
Ouais. Ça plaît autant au maître qu'au chien.
Oui, oui. Mais pour l'instant, j'ai du mal à sortir.
Donc, je comprends, mais au moins, mettez-vous ça comme objectif à moyen terme, parce que ça, c'est vraiment très sympa de faire ça avec son toutou.
Oui.
On rencontre des gens qui sont aussi gaga de leur chien que nous.
C'est vrai.
Et ça nous permet de respirer.
Dès que je vais me promener, d'ailleurs, on en parle. Je croise des gens et puis on parle de nos chiens.
Ben oui, mais c'est bien. C'est ce que je dis souvent. Les bébés et les chiens, c'est le meilleur moyen de rencontrer les autres et leur parler, en fait.
C'est vrai. C'est vrai.
Et donc déjà, vous pourriez vous mettre ça comme objectif à moyen terme.
Mm.
Hein, commencez déjà par des petites sorties, des promenades en extérieur. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour lui.
Oui,
et du coup,
c'est pour ça que j'en ai pris. Hein.
Et voilà,
j'ai pris un chien.
Du coup, lui le fera pour vous aussi.
C'est vrai.
Et s'oxygéner le cerveau, ça fait partie des choses qu'on oublie à quel point l'oxygène est important. On peut se priver de manger pendant plusieurs jours, on peut se priver de boire pendant plusieurs heures, on ne peut pas se priver d'oxygène. Notre corps en a besoin, et ce n'est même pas une question de bien-être, c'est une question de santé. Et malheureusement, quand on va mal, on fait l'inverse. On ferme les fenêtres, on ferme les portes, on se met sous la couette, et on ne donne plus à notre corps cet oxygène-là. Et autre chose extrêmement importante, surtout à partir du mois d'octobre-novembre, c'est la lumière. S'exposer, si vous n'avez pas... Vous savez, il y a des petites lampes de... Ça y est, le terme va m'échapper. De luminothérapie.
Oh, j'en ai pas.
Et ben, peut-être, à l'occasion, un jour, vous pouvez en trouver une d'occasion. Ça doit se trouver pas très cher. Pour se mettre au moins 20 minutes par jour à la lumière. Sinon, mettez-vous près de la fenêtre. C'est pareil, ça joue sur le cerveau, ça joue sur le taux de sérotonine. C'est pas juste pour se faire plaisir comme ça. C'est vraiment important.
C'est vrai.
L'air, la lumière sont des choses de base dont on a besoin, dont notre cerveau a besoin. Il en a d'autant plus besoin quand il est un peu en difficile, dans une période difficile. C'est là où il faut augmenter ça.
Déficitaire.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est des petites choses qu'on peut tous faire. Même quand on n'a plus très très envie. Ah tiens, on a Clotilde qui nous dit les petites gélules. Griffonia, oui, le Griffonia simplicifolia. Oui, Griffonia est aussi effectivement une plante antidépresseur. En petites gélules, marcher pieds nus sur la terre ferme et faire des gâteaux, dit-elle. Là, c'est des petits plaisirs. Alors, marcher pieds nus, c'est surtout sur l'herbe le matin pour récupérer de l'énergie. Ça, c'est extraordinaire quand on a la chance d'avoir de l'herbe sous le pied, si je puis dire.
Oui, c'est pas mon cas.
Bon, en ville, c'est pas toujours évident, mais quand on peut le faire, c'est vrai. C'est plein de petites choses comme ça, mais ça nous fait vraiment du bien.
Oui. Hein. Non, mais je sais, il faut que je me prenne en main et que je me secoue, et je sais.
Non, alors les IFO, je ne suis pas d'accord avec les IFO, parce que les IFO, si c'était facile, on le ferait. Que je me secoue non plus, je pense que vous avez été assez secoué comme ça par la vie. C'est l'inverse qu'il faut. Oui. Ce n'est pas vous secouer, au contraire, c'est vous faire du bien.
Oui.
Il y a une autre manière de se faire du bien, je pense à ça, vous savez, c'est quand ça ne va plus du tout, quand on est dans le fond du trou le soir à la maison et qu'on se sent, on a juste envie de pleurer, qu'on n'a pas d'épaule pour se reposer. Est-ce que vous connaissez le câlin du papillon ?
Non.
Le baiser, c'est très mignon le câlin du papillon. En fait, vous mettez votre main gauche sur votre épaule droite.
D'accord.
Et votre main droite sur votre épaule gauche. C'est-à-dire que vous avez les bras en croix.
D'accord.
Et puis tout doucement, au rythme de votre respiration, vous soulevez les coudes jusqu'au visage en inspirant. Et vous baissez les coudes en expirant. C'est une manière à la fois de se prendre dans les bras, de calmer sa respiration et de s'apporter juste un petit moment de réconfort aussi. C'est pas grand-chose non plus, le câlin du papillon, mais c'est un petit truc.
C'est un petit truc, oui. Je suis d'accord.
Je préfère ça qu'il faut que je me secoue, vous voyez. Non.
Oui.
Je pense que vous avez été assez secoué comme ça, au contraire. Et rappelez-vous toujours que la seule personne au monde en charge de votre bonheur, c'est vous.
Oui.
Mais j'écoute vos émissions et c'est vrai que ça me fait toujours du bien parce que ça m'apporte toujours quelque chose.
Ah bah tant mieux.
Oui, vraiment. Donc, tout ce que je voudrais, c'est retrouver mon fils. Et ça, c'est pas gagné.
Mais en allant mieux, je pense que ça va arranger les choses aussi avec lui.
Non, son fils, c'est son père. Ah. Et, enfin bon, après, c'est une autre histoire.
Mais il a quoi? Il a 19 ans maintenant?
16.
16?
Il a 16 ans.
Ah d'accord, je le voyais un petit peu plus grand. Oui, 16 ans, de toute façon, c'est un âge extrêmement compliqué, quelle que soit déjà la situation.
Et pourtant, c'est un super ado. Enfin, je veux dire, franchement, vu les problèmes entre le papa et la maman, c'est un super ado. Et vraiment, voilà.
Le contact n'est pas rompu.
Avec mon fils?
Oui.
En ce moment, il l'est. En ce moment, il est. Mais je sais qu'il va revenir, parce qu'il m'a demandé de venir passer le week-end avec moi.
Ah,
je lui ai dit, il n'est pas là.
Vous voyez?
Oui, mais il n'est pas là.
Mais ça va venir, c'est qu'il en a envie quand même. Ça, je pense que ça doit être compliqué pour lui. Là non plus,
c'est pas ça.
Rien n'est définitif non plus. Il faut juste avancer au jour le jour en ce moment.
Ouais.
Quand les choses vont mal, il faut éviter de se projeter. Parce que quand on projette toujours un scénario négatif.
J'attends pour l'instant.
Commencez par vous reconstruire vous et vous reconstruirez votre relation avec lui après.
Non, puis la maison est très encombrée, la maison que j'ai laissée. Puisque la compagne, elle a fait mamie surtout. Enfin bon, bref, ça c'est un autre problème. Mais il ne se sent plus chez lui. Donc du coup, il veut venir chez moi. Je dis, mais tu viens chez moi. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment le prendre. Moi, je ne suis pas assez bien, en fait, pour l'instant.
Non, pour l'instant, mais une fois de plus, ça peut être à moyen terme.
Mais c'est vrai.
Ça peut être un objectif aussi pour redresser la tête, aller mieux.
Mmh.
Et instaurer une nouvelle relation plus proche avec votre fils.
Ben, quand j'ai perdu mon fils, quand son père a pris mon fils, il a pris la garde de mon fils, moi, je m'en suis occupée. Pendant plus de 10 ans, j'ai perdu tous mes repères.
Oui, bien sûr.
Donc... Je vais faire à manger pourquoi? Pour qui? Donc quand mon fils est là, oui, je vais faire à manger. Quand il n'est pas là, non.
Et bien là, il va falloir que ce lien-là d'amour, vous l'instauriez avec vous-même maintenant. D'abord.
Ouais.
Tout ce que vous avez fait pour lui, vous allez le faire pour vous.
Ouais.
Comme si vous alliez vous occuper de votre petite fille intérieure maintenant. Hein.
Ouais.
Elle a besoin d'aide en ce moment, cette petite fille-là.
Ouais.
Et oui.
Enfin. Bon, allez. En tout cas, je vous remercie. Mais je sais que je vous écoute beaucoup et que ça me pose.
Eh bien, j'en suis ravie. Et j'aimerais bien, Françoise, que vous m'appeliez dans quelques temps pour me donner de vos nouvelles.
D'accord. Ça marche. On fera comme ça.
Je vous embrasse très fort.
Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Au revoir.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Et j'accueille maintenant Sylvie. Bonsoir à vous, Sylvie.
Bonsoir.
Bienvenue.
Voilà, donc moi je vous appelle. C'est très rare que j'écoute la radio, donc j'ai un très bon ami qui m'a donné votre numéro de téléphone, qui m'a fait écouter votre émission.
Oui.
Et donc je ne peux pas vous raconter toute ma vie parce que ça c'est un roman. Maintenant, je veux dire, j'ai un sacré vécu. J'ai plus de famille depuis que ma mère, elle est malade. Parce que mon frère, il veut jouer un peu le grand chef. Mon père, il s'est suicidé. J'ai une sœur qui s'est suicidée. Mais le plus gros de ça, c'est que... dimanche dernier, il y a une femme pas loin de chez moi qui s'est fait tuer par son compagnon. Et ça a à nouveau réveillé des choses en moi parce qu'en 1994, J'ai un de mes ex-compagnons, dont, avec qui j'ai une fille, il m'a tiré dessus, il voulait me tuer.
Comment vous en êtes sortie?
Ben, je m'en suis sortie, ben, les gendarmes, ils ont mis une demi-heure à se déplacer. Parce que j'ai fait, chaque fois, j'ai porté plainte quand j'ai pu, mais il était tout le temps derrière moi. Il me séquestrait, il m'étranglait, il me traînait par les cheveux dans la voiture, il me violait, il me mettait des pistolets sur la tempe, il m'emmenait en voiture avec le sang giclé sur les vitres de la voiture, avec des fusils dans la voiture, etc. Il était complètement fou. Et petit à petit, avec ma mère, on a regardé pour dont un propriétaire qu'on connaissait. Et on mettait une chose en place pour que je puisse un jour m'enfuir. Et voilà. Et surtout pour mes enfants aussi, la sécurité de mes enfants. Donc j'ai préféré laisser mes trois enfants que j'avais avant d'être avec lui. Je préférais les laisser chez ma mère pour leur sécurité. Mmh. Et donc sa fille que j'ai eue avec lui, ben ça c'était hors de question qu'elle aille chez ma mère. Mais même après sa fille, il était assez violent. Et puis jusqu'au jour où c'est que... Ben moi, j'ai travaillé en Allemagne, j'habite en Alsace. Et ben monsieur, il est allé jouer au poker avec des amis. Il a laissé deux des enfants dans un parc. Et puis la petite, elle voulait traverser la route. Et sa petite sœur l'a rattrapée. Et puis il y a donc deux dames qui les ont pris et qui... Ben on a failli me prendre mes enfants à cause de ce mec qui voulait rien foutre. Voilà. Donc là, j'ai dit avec ma mère, on s'est mis d'accord. Et puis j'ai dit, écoute, tu m'appelles, tu me dis que j'ai du courrier important, il faut que je le cherche. Donc on a trouvé le truc. L'appartement s'était déjà mis en place, finalement. Mais une fois qu'on était séparés, 8 mois après, en fait, il est venu, il m'a défoncé la porte, il m'a tiré dessus. Je me suis pris 5 balles de 22. Et il était en train de recharger, il voulait me finir, entre me battre, me casser le bras, voilà, la totale. Je voulais même sauter par la fenêtre, enfin... Et le meurtre de cette dame, la semaine dernière, ça a tout réveillé de nouveau en moi.
Oui.
Malgré que ça s'est passé en 1994. Donc moi, ce que j'aimerais bien, depuis des années, je me dis, c'est vrai, à la télé, des fois, vous voyez, j'ai déjà vu des gens qui témoignaient parce qu'elles se faisaient battre par leurs compagnons, etc. Mais moi, je ne me faisais pas que battre, séquestrer, etc. et me tirer dessus. Et là, donc, j'ai envoyé à cette jeune fille qui a perdu sa maman dimanche. J'ai dit, voilà, j'ai vécu à peu près le même drame. Alors que les gendarmes, ils n'ont pas fait leur travail. Parce que moi, c'est le jour où il m'a tiré dessus, j'ai été convoquée chez le procureur même. Et donc, ce procureur, il m'a dit, écoutez, vous allez chez vous, vous portez plainte à la gendarmerie. Et là, maintenant, on en a marre de lui et on va le coffrer. Je rentre chez moi, je vais à la gendarmerie, je dis, voilà, je viens de chez le procureur. Il m'a dit de porter plainte et il faut que vous allez le chercher. Parce que, bon, même ils sont passés des fois dans la rue, il était interdit de m'approcher ou interdit de la petite ville où j'habite. Et une fois, j'étais à la fenêtre, il m'a foutu le bordel dans la rue. Et les gendarmes sont passés, ils ont juste discuté avec lui et ils sont repartis. Donc le lendemain, je suis allée, j'ai dit, mais c'est quoi comme travail? Il est interdit, vous le voyez, vous tapez là, discutez avec lui, et après vous partez, c'est pas normal. Et donc ils m'ont dit, quand j'ai voulu porter plainte, on m'a dit, oui, on a plus important que toi maintenant. Donc je suis rentrée chez moi et puis j'avais hébergé à l'époque ma nièce avec sa petite gamine. Et elle m'avait dit qu'elle allait à 14h partir à la mairie faire quelques papiers. et qu'elle allait revenir de suite. Et moi, j'avais rencontré quelqu'un, mais sans plus. Mais simplement, ce jeune homme, il m'a dit, écoute, si tu veux, tu peux venir le week-end chez moi pour sortir un peu de ce train-train, de ces menaces, etc. Alors, on s'est donné rendez-vous chez ma mère pour 16 heures. Et ma nièce, elle n'est pas revenue. Donc, elle revoyait son copain en cachette. Donc, elle est allée voir. Et une voisine qui venait tout le temps chez moi, pareil, elle travaillait dans ce restaurant. Et lui, qui m'a tiré dessus, il a posé son pistolet sur le bar. Il a dit, aujourd'hui, on va parler de moi. Donc, tout le monde le savait, que c'était ça me touche, ça allait me toucher moi. Mais personne ne m'a prévenu. On m'a prévenu si une fois qu'il était trop tard. Voilà. Et donc, il est venu, il m'a défoncé la porte. Et puis, c'était les 30 minutes les plus longues de ma vie.
C'était quand ça, Sylvie ?
En 1994.
Et donc, depuis, comment ça a évolué ? Vous en êtes où aujourd'hui ?
J'en suis où ? Dans une bonne dépression. Donc, j'ai entendu la dame tout à l'heure qui en a parlé. Moi, par contre, je suis sous médicaments. Mmh. Et puis, comment je m'en sors ? On va dire, je vis avec. Mais ce qui n'est pas normal non plus, je veux dire, au niveau même de la sécurité sociale. Ils étaient partis civils, portés partie civile aux assises. Et maintenant, quand j'ai besoin de lunettes, parce qu'il m'a... Il m'a crevé un œil, voilà. En fait, il voulait me tirer dans la tête et j'ai eu ce réflexe de tourner la tête. Quand j'ai vu qu'il voulait appuyer sur la détente, et il m'a tiré à bout touchant dans l'œil. Donc là, si on a besoin de lunettes, on vous lâche dans la nature, voilà. Alors que les séquelles sont à vie, j'ai encore 2 balles dans mon corps, j'ai une grande vis dans mon bras. Je ne pourrais jamais faire, là, je devrais faire une IRM, je ne peux pas, parce que j'ai un accident de voiture, je ne peux pas, parce que j'ai encore de la ferraille en moi, voilà. Donc, comment je m'en sors ? C'est clair que quand on vous crève un œil, vous portez une prothèse oculaire, c'est déjà rien que physiquement, voilà.
Vous avez été
suivi. Vous regardez dans la glace tous les jours et c'est ouais, physiquement déjà c'est une très longue histoire. Ça a déjà commencé avec mon enfance. Là actuellement, j'ai plus de famille. Ma mère, elle est malade depuis 2017. Mon frère, il veut tout commander. Il veut pas que je rentre dans la maison. Il m'a agressé. Il m'a tapé sur le plexus. J'ai du mal à respirer souvent.
Vous avez enchaîné beaucoup de traumatismes. Est-ce que vous avez été suivie de près par une thérapeute, par un psy ?
Écoutez, je suis allée 2-3 fois, même avec mes enfants. Donc, au niveau de mes enfants, j'ai aussi eu des reproches. Parce que, j'ai fait mon travail de mère, malgré tout. J'ai même quitté, avec 5 autres opérations, au bout de 12 jours, j'ai quitté l'hôpital. Et après, quand le temps il est un peu passé, des fois je mettais à pleurer et je leur disais, mais quand elles étaient dans l'adolescence, elles voulaient faire des bêtises. Je disais, mais arrêtez vos bêtises, quel meilleur exemple voulez-vous que moi en face de vous ?
J'ai pas compris, Sylvie, j'ai pas compris votre réponse. Est-ce que vous avez été suivie par un psy ?
Pas suivie. J'en ai vu un plusieurs fois.
2 ou 3 fois, c'est ça ?
Ouais, non, mais ça, avec les enfants aussi.
Quand on a vécu des choses aussi violentes que ce que vous avez vécu, il faut vraiment, vraiment travailler sur ces traumatismes-là. C'est pas juste voir un psy 2-3 fois. Vous avez besoin de réparer beaucoup de choses dans votre histoire, là.
Oui, mais moi, ça m'a fait peur d'aller voir des psys parce que j'ai une sœur qui était vraiment très, très dépressive, pire que moi. Et elle voyait régulièrement des psys, et elle a quand même fini par se suicider. Le psychiatre n'arrêtait pas de lui prescrire des médicaments, beaucoup. Et donc elle faisait le plein, et puis un jour, elle s'est suicidée.
C'est tragique et j'en suis désolée, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas avoir de psy. Hein.
Peut-être aussi, mais ben, moi, en fait, ce qu'il y a déjà, je voulais vous raconter un peu mon vécu, mon histoire. Après, je voulais aussi voir, et je pense qu'il y a peut-être des auditeurs qui pas mal, qui entendent.
J'espère, c'est le but de l'émission, donc, oui.
Voilà, tout à fait. Donc, j'ai un très bon ami, là, je pense qu'il est même en train de m'entendre. Donc, lui, il est vraiment à mon écoute, toujours, oui. on parle souvent. Parce que niveau famille, niveau même de mes enfants, c'est pas ça, c'est plus ça. Et donc, on va dire, c'est le seul ami que j'ai qui est à mon écoute. Et donc, l'autre fois, il me dit comme ça, toi, avec tout ce que tu as vécu, parce qu'on a souvent parlé de choses et d'autres, mais je ne suis jamais rentrée dans les vrais détails.
Oui.
Et donc là, je lui ai raconté la totale. Et là, il me dit, mais toi, tu pourrais faire un bouquin. Alors, j'ai dit, oui, effectivement, j'aurais bien aimé faire, mais je ne peux pas écrire. Donc, si quelqu'un m'entendrait à l'antenne, qui serait d'accord pour écouter mon histoire et de m'écrire un bouquin, voilà, je serais OP. Je voudrais laisser une trace derrière moi.
Vous aidez à mettre tout ça sur
le noir sur blanc. Les autres femmes aussi.
Alors concrètement, Sylvie, c'est une bonne idée. Effectivement, dans quelle ville êtes-vous ?
Je suis en Alsace, ça s'appelle Buxwiller.
Alors à côté de quelle grande ville ?
À côté, à 40 minutes de Strasbourg.
À 40 minutes de Strasbourg. Donc si on a parmi tous les auditeurs ce soir des gens qui sont dans votre région, qui sont plutôt à l'aise avec l'écriture et qui souhaiteraient vous aider, bien écoutez, appelez-nous 3921 ou envoyez-nous un SMS 73921 en commençant par le mot nuit. Et dans ces cas-là, on vous mettra en contact avec Sylvie pour, pourquoi pas, l'aider à mettre toute cette histoire-là noir sur blanc.
Voilà, c'est ce que j'aimerais bien, oui.
D'accord,
Sylvie.
Parce
que j'ai aussi connu une femme, une vieille dame, une gitane, qui a fait un livre, Louise Reinhardt. Vous avez peut-être entendu parler de ce bouquin.
Non.
Et c'est pas elle non plus qui l'a écrit, c'est quelqu'un qui l'a écrit pour elle.
Oui, peu importe, ce qui compte, c'est l'histoire, en fait.
Voilà, c'est exactement. L'histoire. Donc moi, c'est vraiment, si je veux commencer de A à Z, ça va être un sacré roman, vu mon vécu. Ça fait 25 ans que je ne parle plus avec mes sœurs, avec mon frère. Mon frère, il m'a agressé déjà dans le temps. Enfin bon, j'ai 3 pères différents pour mes enfants. Le premier, il s'est donné du plaisir avec mes propres sœurs. Le deuxième, qui était tellement fou, voilà, comme je vous ai raconté. Mais quand même, il s'est aussi donné du plaisir avec mes sœurs. Le troisième, c'était avec ma propre nièce. Voilà.
Sylvie, vous avez bien fait d'appeler ce soir. C'est une demande intéressante. J'espère que quelqu'un aura envie de venir vous aider et de vous aider surtout à raconter cette histoire-là pour qu'il y ait des traces. On va garder vos coordonnées et je vous promets qu'on vous met en contact, d'accord ?
Oui, parce que là, la dame qui est décédée dimanche, la fille, elle a raconté, c'était exactement pareil. On va chez les gendarmes, ah bah oui, portez plainte. Après, une fois que vous êtes dans l'hôpital, dans un état comme j'étais, là, on vient dans votre chambre, on vous pose plein de questions. Moi, je demande, mais vous êtes qui ? Police de là. On est là pour votre sécurité.
Sylvie, on va essayer de se recentrer sur votre demande parce que ça va devenir compliqué. Oui. Je le rappelle, donc vous aimeriez raconter votre histoire de vie, tout ce scénario-là, et vous cherchez quelqu'un dans la région de Strasbourg qui pourrait venir vous aider à écrire tout ça. D'accord ?
Oui.
On passe le message ce soir et je vous promets qu'on vous tient au courant dès qu'on a des nouvelles, d'accord ?
Mais mon ami m'a dit aussi
Sylvie,
dans la région de...
Sylvie, on s'arrête là.
Près de sa mère aussi.
D'accord. Oui. On garde vos coordonnées et je vous promets qu'on vous tient au courant pour la suite. Ça marche ?
D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous remercie.
Merci à vous, au revoir.
Merci, au revoir.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Et c'est Alain que j'accueille maintenant. Bonsoir à vous, Alain.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci. Les auditeurs.
Merci d'avoir patienté.
Je vous en prie. Ben, c'est triste, toutes ces histoires que j'entends, en fait.
Ah, c'est pas très gai ce soir, oui, mais ça fait aussi du bien d'en parler, c'est pour ça qu'on est là.
Ben, malheureusement, je vais enchaîner, parce que la mienne aussi n'est pas très drôle.
Oui.
Moi, j'ai 66 ans, donc j'habite les Hauts-de-Seine, sud de Paris. Je tiens pas trop à dire l'endroit.
Peu importe.
Mais je l'ai dit au standard, hein, de toute façon. Et donc, y a un an, après 40 ans dans l'armée, dans l'humanitaire, j'ai fait un AVC. Donc j'avais une compagne, j'ai deux filles, une fille de 23 ans et une autre de 20 ans. Tout se passait bien, donc j'ai été hospitalisé. J'ai perdu tout le côté, l'usage du côté gauche, en côté cœur en fait.
Vous avez été pris en charge à temps ?
Oui, j'avais 21,9 de tension, il paraît.
Oh là !
Oui. Donc j'ai perdu 87% de ma vue, parce que j'ai fait un excès de diabète et je ne le savais pas.
Ouais.
Et en tombant, je me suis fracassé la tête sur une table, donc j'ai eu l'ouïe droite qui est terminée, quoi. Et donc, entre le moment où j'ai été hospitalisé dans ma ville en convalescence et le retour à la maison, mes enfants et ma compagne, ils ont tout déménagé mes affaires et j'ai habité dans le salon.
Attendez que je comprenne bien. Vous faites un AVC,
oui.
Vous partez, vous êtes hospitalisé pendant quelques temps et quand vous revenez, votre femme vous installe dans le salon.
Oui,
j'imagine que c'est...
je serai plus tranquille.
Pour éviter aussi qu'il y ait un accident, ou pour être plus sous surveillance, non ?
Je n'ai pas compris exactement pourquoi, parce que je n'étais pas dans un état pour comprendre. Vous savez, j'ai fait un deuxième après AVC, après ça, un choc. Donc, je me suis retrouvé toujours dans ce salon. Et le problème, c'est que moi, vous savez, quand on est à la retraite, on a des passions. Moi, la passion, c'est la musique.
Mm-hmm.
Et donc, j'avais investi beaucoup. Hein. Vous savez, si vous faites la radio, hein, je connais Europe 1, vous savez. J'ai investi 5000 euros dans du matériel, table de mixage et tout. Et je voulais aider les jeunes qui n'ont pas les moyens d'enregistrer, de faire des maquettes, en fait.
Oui, sympa.
Donc, ils ont pas su démonter la table de mixage. Et ils ont arraché les fils, ils ont tout mis sur le côté.
Quand vous dites « ils », c'est votre femme et votre fils ?
Oui, oui. Ouais. Mais moi, je suis quelqu'un, vous savez, dans l'armée humanitaire, on voit beaucoup de choses. Moi, j'ai fait l'Irak, j'ai fait la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, et Djibouti. J'avais 17 ans et demi quand j'étais à Djibouti. J'ai connu les armes, on m'a mis des armes. J'étais engagé, en fait, j'étais enfant de troupe à Tulle à l'époque. Et donc après, il y avait des problèmes entre les Afar et les Issa. C'était le début de l'indépendance de Djibouti. Et je me suis retrouvé comme ça, dans un conflit de guerre, sans savoir, en fait. Donc j'ai vécu des moments difficiles, très durs. J'ai travaillé à Madagascar. J'ai un tempérament très, très, très fort, très dur. Et sans qu'ils s'en rendent compte, j'ai progressé. Je suis maintenant un peu indépendant. Et j'ai tout de suite compris ce qui m'arrivait. Mais je l'ai compris trop tard, en fait. Parce qu'en plus, ils m'ont vidé mon compte en banque.
Oui.
Et donc, ils ont tout fait pour me mettre en tutelle ou en curatelle.
Oui.
Pour me faire passer pour un fou.
Donc, si je comprends bien, en fait, le vrai souci, c'est pas tellement les soucis de santé, c'est qu'en fait, votre femme aurait, si d'après ce que vous me dites, profité de ça. Mm-hmm.
Oui.
En fait, elle s'est engouffrée dans la brèche pour, entre guillemets, se débarrasser de vous.
Oui. Et puis, comme je disais au temps d'air, il y a les humiliations, parce qu'on n'arrête pas de me traiter d'aveugle, d'handicapé, etc. Quoi. Donc, j'ai fait des demandes de logement. Il n'y en a pas, puisque maintenant, les bailleurs sociaux... Moi, j'ai une retraite convenable. Les bailleurs sociaux ne sont plus obligés d'aménager des appartements pour les handicapés. C'est aléatoire, puisque la loi était valable avant,
oui.
Maintenant non. Et donc l'insertion sociale, qu'est-ce qu'elle a trouvé comme prétexte pour me loger ? Me mettre dans une maison de retraite à 3 700 euros. Mais moi, je n'ai pas les 3 700 €.
Puis vous êtes encore jeune quand même. Hein.
66 ans, mais je suis en pleine forme. Hein. Je suis grand, baraque et tout.
J'allais dire ça s'entend, mais c'est vrai que c'est comme ça que je vous imagine.
Oui, merci beaucoup. Bah, je n'ai pas encore de cheveux blancs, merci, je touche du bois.
Alors ça, ce n'est pas juste.
Non, je ne fais pas du tout mon âge, parce que j'ai, malgré toutes les souffrances que j'ai connues, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu.
Mais pourquoi est-ce que vous êtes laissé, ça, si je peux me permettre, laissé faire comme ça par votre femme?
Et je ne m'en rendais pas compte, parce que, comme disait la dame tout à l'heure, j'étais abruti par les médicaments.
Ouais. Et quand vous avez commencé à émerger de ce brouillard-là, vous n'avez pas mis les points sur les i?
Je ne suis pas dans la capacité, parce que l'appartement est à son nom. Elle a un logement de fonction. Mmh. Donc, comme je ne suis pas marié, je considérais habiter chez elle. Et la cerise sur le gâteau, parce que quand il y a un gâteau, c'est meilleur quand il y a une cerise. Elle m'a dit qu'elle partait à la retraite et que j'étais dehors dans un an et demi.
Mmh. Et votre fils dans tout ça?
Ben, je ne sais pas trop.
Parce que qu'il y ait un conflit de couple, bon, ça existe évidemment. Mais qu'est-ce qu'il a à vous reprocher, votre fils?
Il est absorbé par ses études, parce que bon, mes enfants ils sont relativement jeunes, parce que j'ai refait ma vie très tard après. Et donc, elle est professeure. Elle est d'origine malgache. Moi, je suis un réunionnais, mais blanc, tout blanc. Un peu comme Christophe Maé, en fait.
Sauf les cheveux.
Oui, les cheveux noirs, les cheveux bruns, voilà. Ouais. Vous savez que je connais très très bien le grand-père de Christophe Maé.
Ah.
Et oui. Parce qu'à l'époque, j'étais encore à La Réunion, c'est une petite parenthèse pour donner un peu de sourire. Il y a un film qui a été tourné avec Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo, qui s'appelle La sirène du Mississippi.
Oui, bien sûr.
Voilà, qui a été tourné dans la plantation Maé. Et cette plantation Maé, c'est la plantation du parent de Christophe Maé.
Non, d'accord. On aura appris quelque chose grâce à vous.
Voilà, c'est une très très belle maison coloniale, très très jolie. Moi j'ai vécu 17 ans à La Réunion, jusqu'à mon armée, parce que mon père aussi c'est dans l'armée. Donc là, actuellement, je ne sais pas du tout quoi faire. Parce que j'ai décidé de ma propre initiative d'arrêter l'Urbanil, le Zamax, tous ces trucs-là, j'ai tout arrêté. J'ai juste un médicament pour l'hypertension, celui-là c'est à vie, je ne pourrais jamais arrêter si j'arrête. Alors j'ai aussi un conflit avec la sécurité sociale et la mutuelle, parce qu'il me faudrait ce qu'on appelle des dispositifs médicaux, notamment un bracelet anti-chute.
Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui est compliqué pour vous physiquement?
Trouver un logement.
Non, mais physiquement, là, je parle au niveau des handicaps. Qu'est-ce qu'il est difficile ou impossible de faire?
J'ai plus personne pour m'accompagner, faire mes démarches.
Non, vous, juste vous, Alain. Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire physiquement?
Pour l'instant, dans un an, j'ai plus de logement, je suis à la rue.
Vous ne comprenez pas ma question. Au niveau du handicap physique,
marche avec une canne.
Alors, vous avez une canne, d'accord.
Voilà.
Mais vous marchez.
Ah oui, tout à fait. Je ne suis pas considéré comme un non-voyant, je suis malvoyant.
Donc malvoyant, vous marchez avec une canne.
Voilà. J'entends très très bien du côté gauche, parce que vous savez, quand il y a des organes qui sont déficients, il y en a d'autres qui se réveillent en fait.
Tout à fait.
Donc j'ai un odorat exceptionnel.
Eh oui. Vous compensez.
Un toucher, oui, tout à fait.
Mm-hmm.
Donc j'ai vu mon médecin il n'y a pas longtemps. Avec tous les médicaments que j'ai pris, il vaudrait m'appareiller pour l'oreille. Ça coûte les yeux de la tête. Il y a peut-être une opération possible pour mes yeux. Elle coûterait 3 500 €. L'appareil aussi que je dois avoir, un bracelet anti-chute, c'est un abonnement avec un système qu'on doit mettre à la maison. Oui. Mais il faut un Wi-Fi. Et où est-ce que je le mets, le Wi-Fi? Ça fonctionne avec du Wi-Fi.
Comment ça, où est-ce que je le mets, c'est-à-dire?
Le bracelet, il est à mon bras.
Oui.
Mais l'alarme, elle est connectée sur
une box,
en fait.
Oui.
Et oui. Et si j'ai pas de maison, je mets où le box?
Oui, bien sûr.
C'est très dangereux, elle m'a dit. Bon,
d'ici là, il faut absolument que quelqu'un vous aide à trouver un logement.
Ah oui, j'ai tout fait. Hein.
Est-ce que vous avez pensé aussi au partage d'appartements? Des gens qui
proposent... En colocation?
Alors, ce n'est pas complètement des colocations, ce sont des gens qui proposent un morceau de leur appartement.
Oui, alors chambre, ça justement. Alors, vous savez que vous faites bien d'en parler, parce que ce sont des dispositifs que très peu de gens connaissent. Quand vous logez un handicapé ou un retraité, il y a des tas d'aides, en fait.
Mm-hmm.
Déjà, si vous payez les impôts, vous pouvez avoir jusqu'à une demi-part en moins. Il y a des personnes qui sont seules, qui ont des appartements. Moi, je suis prêt à partager, à payer, hein, attention. Je n'ai pas de... Moi, j'étais sous-officier, hein, j'ai une retraite convenable. Hein. Donc, c'est ça, le problème. C'est que je suis trop vieux pour avoir un appartement. On ne me donnera pas, je n'ai pas de fiche de paye.
Oui.
Il n'y a pas de logements sociaux dans la ville où j'habite. C'est une ville riche, donc ils n'ont pas besoin de pauvres ni d'handicapés. Ils les mettent dans les communes à côté. Voilà quoi, c'est super compliqué. Et moi je suis prêt à partager, je suis prêt, je suis dépendant, je suis prêt, j'ai essayé de chercher beaucoup de solutions.
Oui, c'est pour ça que je vous oriente vers d'autres choses que effectivement les logements sociaux, ça ne marchera pas. Il y a les familles d'accueil aussi pour personnes âgées ou avec un handicap.
Ah, moi je suis prêt d'aller n'importe où en France, sauf à la montagne, j'ai horreur de la neige. Hein. Bon, ça se comprend un peu. Mais j'ai horreur de ça. J'ai un bon niveau intellectuel parce que, bon, c'est vrai que malgré tout ce que j'ai eu, tout ce qui concerne, point de vue intellectuel, ça se passe très bien. J'ai même un diplôme d'ingénieur en informatique que j'ai pratiquement jamais utilisé. Bon, je m'en servais à l'armée parce que je faisais de la logistique, donc je connais. J'ai tout ce que j'ai jamais eu la pension d'handicapé parce que on m'a balancé tout de suite à la retraite. Parce que moi, j'ai pas une caisse comme tout le monde. J'ai la caisse des retraites, en fait.
Mmh.
La mutuelle, c'est pareil. Donc, j'ai aucune aide civile, en fait. Donc, j'ai pas droit à l'NDPH. J'ai droit à rien. Voilà.
Est-ce que vous pouvez vous servir d'un ordinateur? Est-ce que vous voyez l'écran?
Ah, tout à fait. Justement, c'est bon. J'ai une association. Qui s'appelle l'association Valentin,
oui.
Je sais plus son nom. Oui, il s'occupe des non-voyants. Elle était dans ma ville, maintenant, malheureusement, ils sont plus là. Et ils sont partis à 30 km à côté.
Mmh.
Mais j'ai un monsieur très, très, très gentil qui ne pouvait plus se servir d'ordinateur, ça lui prenait la tête. Mmh. Il m'a offert un ordinateur avec un écran de 30 pouces. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est énorme. Et j'arrive à m'adapter. Avec un écran tactile, avec des logiciels où je dicte, je peux avoir des mails. Je suis même capable de faire des blogs.
Ah, intéressant.
Ah oui, tout à fait.
Non, je pense à ça parce que pour trouver des familles d'accueil ou trouver des partages d'appartements, il n'y a rien de mieux qu'Internet. Hein.
C'est clair. J'ai tout fait. J'ai même un blog, j'ai tout passé dans Skyrock, puisque c'est vrai que c'est très facile de faire des blogs dans Skyrock. On peut bloquer, surveiller, c'est très très bien au niveau de médias. On m'embête pas en fait.
Mais
j'ai publié mon numéro de téléphone.
C'est pas possible.
On m'a jamais embêté.
Si vous êtes d'accord pour aller n'importe où en France, on va vous trouver quelque chose. C'est pas possible. Il y a bien quelqu'un dans ce pays qui a une chambre à partager.
Écoutez,
un accueil à vous proposer. C'est pas possible.
Oui,
ça.
Ce qu'on m'a dit quand je suis allé voir l'assistante sociale, elle m'a écouté. C'est déjà bien parce qu'il y en a beaucoup qui vous écoutent pas. Elle m'a regardé comme si elle parlait à un idiot. Et en gros, elle m'a dit ce que Coluche, je crois, avait dit. Dites-moi ce que vous avez besoin et je vous dirai comment il faut faire pour vous en passer.
Oui. Ça serait drôle si c'était.
Alors, je l'ai regardé.
Tragique.
Non, parce que vous savez, j'aime beaucoup jouer les idiots. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis encore vivant. Moi, je joue l'indifférence. Quand on m'insulte, le petit monsieur, il ne voit pas ceci. Je dis rien. Faut pas croire que je dis rien du tout. J'ai une carte d'handicap. Quand je vais à Paris, je la montre même pas. Ça sert à rien parce que de toute façon, personne ne se lève. Alors, c'est même pas la peine. Un jour, on m'a fait une réflexion. T'as qu'à prendre des rendez-vous. T'as qu'à pas prendre le métro au moment où il y a plein de monde. Ben, je suis désolé. Je suis suivi à l'Institut à Arthur Verne, hein, à côté du Luxembourg. On me donne rendez-vous à 8h15. Faut que je parte au moins à 6h30.
Mmh.
Hein. Donc, c'est un moment où il y a quand même relativement de monde sur le RERB. Bonjour. voilà, quoi. Donc, je ne réponds pas. Alors je joue l'idiot, c'est tout. Mais à force de jouer l'idiot, je vais finir pour devenir idiot.
Je crois pas, non.
Non, mais bon, j'ai beaucoup d'humour, heureusement. Alors la dame précédente disait que, justement, elle cherchait quelqu'un pour écrire un livre. C'est dommage que je ne sois pas plus prêt, parce que moi, je l'aurais fait.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
J'ai un livre qui va sortir bientôt, là.
Ah bon?
Oui, dans un éditeur. En fait, comme je suis un fan d'ordinateur, de robots, de tout ça, j'ai imaginé une femme robot dont des ingénieurs ont inventé un système, en fait, pour aider les personnes. Mais cette femme robot, ce robot s'est transformé en femme et a pris le dessus. Ce qui peut arriver un jour, hein, on ne sait pas.
La fameuse intelligence artificielle.
Exactement. Mmh. Donc le nom, je peux le dire, le roman, je l'ai appelé Robot Love parce que c'était trop drôle. Et en fait, elle a manipulé celui qui l'a créé, ce robot. Et un jour, alors évidemment, c'était un rêve. Un jour, c'était un rêve, en fait, puisque quand il s'est assis dans le lit, en fait, et il a dit... attendez, j'ai perdu le fil. Oui, il s'est réveillé et il voit une personne qui c'était le robot qu'il avait inventé et elle lui parlait. Il n'y a que lui qui pouvait. Il correspondait avec elle par la pensée en fait. Et un jour, on lui dit mais tu penses à quoi? Il dit mais c'est qui parle là? Puis quand il s'est réveillé, il a vu en fait que le robot s'était transformé en femme. Et à ce moment-là, il s'est levé. Mais il a vu que c'était un rêve, en fait.
Et ça, c'est un roman qui va sortir?
Oui, je ne peux pas donner le nom de l'éditeur, mais il y a une auteure très connue qui a sorti un livre, qui est souvent dans une radio concurrente à côté de chez vous.
Pourquoi,
mais qui était dans une radio
concurrente. Pourquoi vous ne pouvez pas donner le nom de l'éditeur?
C'est Michel Aron. Ah oui. C'est le même éditeur que Marcella Yacoub.
D'accord.
Marcella Yacoub. Ça vous dit, Marcella Yacoub? Voilà. Donc, j'avais même eu l'intention, à un moment donné, de la rencontrer, parce que j'ai lu deux de ses livres, notamment l'histoire avec DSK. Et parce que je ne peux pas lire tout, mais étant donné qu'il y a des livres qui sortent en numérique, mais je suis très content d'ailleurs, parce que je peux lire des livres.
Et il y a des livres audio aussi.
Oui, parce que
Alain, je suis en train de me rendre compte qu'il est presque 1h du matin, l'émission va se terminer.
Ce qui me guette, en fait, ce que j'ai peur surtout, c'est Alzheimer, parce qu'on ne sait pas.
Oui, alors commencez pas à anticiper le pire, on n'en est pas là pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est que concrètement, ce soir, si on peut vous aider, c'est que vraiment quelqu'un qui aurait un logement à vous proposer nous appelle. Nous envoie un mail, je vous rappelle que c'est libreantenne@europe1.fr, libreantenne en un seul mot. Ou alors 739-21 en commençant par le mot nuit pour les SMS, que vraiment, si dans n'importe quelle ville de France, vous avez un logement à louer pour Alain, si vous êtes famille d'accueil, si vous avez une solution pour lui, vraiment, appelez-nous. Hein, je suis persuadée qu'on va trouver des contacts pour vous, Alain, c'est pas possible.
De toute façon, il y a le fixe et mon portable qui est au standard. Je donne l'autorisation. Bon, peut-être pas maintenant, hein, mais demain matin.
Comment si ça, on ne peut pas vous appeler à 4h du matin? C'est pas drôle.
Vous avez beaucoup d'humour, Sabine. C'est pour ça que je vous adore beaucoup.
Non, c'est gentil.
Oui, non,
je trouve
mais
que c'est
vrai.
C'est la seule chose qui nous fait tenir debout dans ce monde. C'est d'en rire, finalement.
Vous savez, j'aime beaucoup. On a un grand parc ici. Je suis ce qu'on appelle sur la coulée verte, qui démarre d'Antony, qui va jusqu'à la Porte d'Orléans. Il y a un grand parc à côté de Sceaux.
Oh, je connais
et,
bien.
Et voilà, je me promène parce que j'arrive quand même à me promener. Et quand je vois ces petites mamies qui sont assises sur les bancs, qui sont là, je dis, mon Dieu, pourvu que j'en vienne pas à ce point-là.
Il y a peu de chances que vous deveniez une petite mamie quand même, mais ça, on en reparlera. Alain, oui. Il faut qu'on se quitte, l'émission se termine. Promettez-moi de me donner de vos nouvelles, et en tout cas, on garde vos coordonnées, j'espère vraiment,
voilà.
Vraiment
alors,
qu'on aura des contacts.
Alors attention, je donne une dernière chose.
Très vite, il nous reste 10 secondes.
C'est que j'ai eu une copine avec moi, et celle-là, pour rien au monde, je peux m'en séparer.
Donc il faut une chambre pour deux.
Non, je plaisante. C'est ma petite chatte.
Oui, je le voyais venir. Ça marche comme ça. Je vous embrasse très fort. Voilà. Alain, rappelez-nous pour donner
des nouvelles. Elle me comprend tout.
Il faut qu'on sépare, l'émission se termine. Merci. Un grand merci à vous tous qui êtes venus témoigner ce soir. Merci à vous pour tous vos SMS. Je vous quitte sur cette citation que j'aime beaucoup. N'aie pas peur d'avancer lentement, aie peur de rester immobile. Je vous retrouve demain soir à partir de 23h avec le même plaisir. Et dans un instant, je vous laisse en compagnie des programmes de la nuit sur Europe 1. À demain, bonne nuit.